King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, dans un premier temps, nous avons l'honneur de recevoir Mme Élise Turcotte, qui est venue donner un atelier d'écriture intensif dans le cadre de l'Université d'été en lettres et création littéraire et qui a accepté de venir nous parler, entre autres, de ses romans « Guyana » et « La maison étrangère », publiés respectivement en 2011 et en 2002 aux éditions Le Méac. « La maison étrangère » qui, je le rappelle, avait obtenu le prix littéraire du gouverneur général, mais elle nous parlera aussi de son œuvre en général et de son rapport aux différents genres littéraires dans lesquels elle publie. Suivant notre tradition, l'émission d'aujourd'hui va se diviser en trois segments. Dans un deuxième temps, nous allons enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Ma co-animatrice Catherine Gosselin va s'entretenir avec notre invité Claude Lacharité, qui va nous parler des récits amérindiens de Philippe Aubert de Gaspé Père, une œuvre pratiquement méconnue de cet auteur qu'on va redécouvrir avec ses récits. Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec Élise Turcotte et, pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission « Sous l'influence des livres », nous allons aborder ses lectures phares et l'influence de certains livres ou certains auteurs dans sa démarche d'écrivaine. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre des extraits du roman « La maison étrangère », lu par une invitée spéciale à notre émission, l'écrivaine Linda Dion, de passage dans la région rimouskoise dans le cadre de l'Université d'été en lettres et création littéraire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Mme Élise Turcotte. Bonjour Élise et bienvenue à l'émission.
Bonjour Camille.
D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de ce choix que vous avez fait de confier la narration à trois personnages dans Guyana. Anna, le personnage de la mère, la voix enfantine de Philippe et à la fin du roman, la voix d'une morte, Kimi, ce qui est quand même un défi particulier à relever. Pourquoi avez-vous choisi de raconter des bribes d'une même histoire en privilégiant trois points de vue de narration, en confiant le récit par moments à la mère et à d'autres moments à l'enfant?
C'est toute une question. En fait, moi, quand j'écris, je me pose pas cette question-là. C'est arrivé comme ça. J'avais commencé avec la narratrice Anna qui raconte l'histoire. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas assez. J'avais besoin d'un autre point de vue. Mm-hmm. J'ai fait parler son petit garçon, Philippe. Et en continuant à travailler, ben, vers la fin, ça m'est arrivé quand même à la toute fin. Je voulais vraiment donner une voix au personnage qui est un peu le personnage pivot autour de quoi tout gravite dans le roman. J'ai fait parler la morte, là, on ne devrait pas... Mais c'est pas un punch, en fait.
Non, on ne donne pas les punchs,
mais
quand même.
J'aimais l'idée j'aime bien l'idée de faire parler, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Mm. Et puis, le fait de faire parler la morte, ça a été comme la découverte de tout ce que disait mon roman. Dont je ne savais pas trop. On ne sait pas quand on écrit exactement tout ce que ça... toute la portée que ça a. Oui. Et là, je l'ai découvert. Donc, pour moi, l'écriture, c'est vraiment une découverte que je fais au fil de l'écriture.
Donc, vous écrivez sans plan, si je comprends
bien. Sans plan. Mais j'en fais à mesure, mais j'écris sans plan. Mais avoir plusieurs points de vue, moi, je trouve ça super intéressant. Raconter le même événement trois fois, mais de façon différente, je trouve ça vraiment...
Oui, c'est très riche.
C'est riche,
en effet. Et quand on écrit avec trois narrateurs différents, quelles seraient les difficultés ou les écueils ou les défis liés particulièrement à la voix d'une morte? C'est quand même spécial.
Oui, c'est spécial. Au début, je ne me suis pas posé trop de questions, mais je savais, par exemple, que je devais la faire parler au présent, plutôt. Oui. Parce qu'elle était... C'est une morte qui vient de mourir. Fait que je me suis dit, elle est dans un moment presque entre la vie et la mort. Oui. Donc, elle ne pouvait pas non plus, c'est ça, parler au passé. Il fallait que je lui donne une tonalité assez particulière. Oui. Mais sans plus, parce que je voulais pas que ce roman-là ait l'air d'un exercice de style non plus.
Non, par exemple, c'est vraiment pas le cas.
C'est ça, le petit garçon, je me suis pas dit, j'ai pas le droit de dire ça, je m'octroie toutes les libertés en faisant parler un enfant. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut le faire.
Oui, puis c'est riche parce que ce qui est vécu dans cette famille-là, on ne révèle pas les punchs, mais ce qui est vécu dans cette famille-là, bien, d'avoir le point de vue de l'enfant, ça, c'est une autre perspective complètement. Puis c'est une autre perspective sur la mère aussi.
Oui.
Et sur Kimi elle-même aussi.
Exactement. C'est ça que j'aime faire.
D'accord. Ensuite, j'aimerais ça qu'on aborde un peu l'importance des objets dans votre œuvre. Dans Guyana, comme dans les autres romans, on remarque la très grande importance que vous accordez justement aux objets. Qu'on pense aux portraits, aux livres du Moyen-Âge manipulés par Elisabeth dans La Maison étrangère ou aux cartes postales de Jim qu'elle reçoit. Donc, qu'on parle de l'importance des objets. Parce que d'ailleurs, le titre de votre premier roman, Le bruit des choses vivantes, annonçait déjà cette importance-là,
Oui, c'est vrai que dans Le bruit des choses vivantes, ce premier roman-là, il est question beaucoup des objets de la vie quotidienne et comment un objet, dans un seul objet, peut être cristallisé toute une vie.
Ouais.
Je sais pas pourquoi j'aime ça m'entourer d'objets qui ont une signification particulière. Quoique chez moi, par exemple, c'est assez vide, là. Je sais pas, quelqu'un qui ramasse des...
Une collectionneuse.
Non, je sais pas. Ben, je pourrais être une collectionneuse, mais je le fais pas. Mais j'aime l'idée de la collection.
D'accord.
Donc, j'aime les vieux objets. Comme là, je suis dans un espace où il y a des vieux livres et j'ai vraiment le goût d'aller toucher, là.
Oui.
Je pense que aussi, pour décrire des personnages, c'est intéressant. Les objets parlent beaucoup des personnages qu'on veut faire voir. Mm. Donc, puis c'est peut-être visuel aussi. Il y a quelque chose de visuel dans la description d'un objet.
Puis il y a une portée symbolique.
Il y a une portée symbolique.
On peut utiliser l'objet comme une connotation.
Oui. Ah, beaucoup. Parce que, par exemple, dans La maison étrangère, tout est symbolique dans ce roman-là. Fait que c'est sûr qu'il y a une importance accordée au moindre objet dont je parle dans le livre, c'est très important.
Ne serait-ce que les gants blancs pour manipuler.
Oui, exactement. Dans Guyana, c'est plus des sons. Hein. C'est étrange, mais moi, par exemple, le ciseau de la coiffeuse.
Ah, c'est vrai.
Mais c'est le son du ciseau qui m'intéressait.
Donc
j'ai écouté chez le coiffeur, je suis comme impressionnée par ce son-là. Puis là, j'ai essayé de reproduire le clac-clac
le cliquetis des ciseaux.
Oui, des ciseaux, mais quand on coupe des cheveux courts, ça m'intéressait, en tout cas, parce que la coiffeuse coupe les cheveux du petit garçon.
Oui.
Donc, c'est beaucoup la sonorité des objets.
D'accord, la vie des objets.
La vie des objets.
On revient à votre premier livre.
Oui, c'est vrai.
J'aimerais aussi qu'on se parle des genres littéraires, parce que c'est fascinant, vous écrivez dans au moins trois genres littéraires, pour ne pas dire quatre, parce que vous touchez aussi la littérature jeunesse. Donc, qu'est-ce qui fait que pour une histoire, vous choisissez d'écrire un roman et pour une autre, un recueil de nouvelles? Dans Caravane, par exemple, c'est un recueil de nouvelles où il se passe quelque chose de particulier, parce que habituellement, on s'attend à entrer à chaque début de texte dans un nouvel univers avec des nouveaux personnages, un nouveau narrateur. Et vous avez choisi de mettre en scène une seule narratrice à plusieurs moments choisis de son existence et de raconter son existence, dans le fond, par morceaux. Pourquoi avoir fait un choix comme ça?
J'aime les fragments. Donc, j'aime toute écriture par morceaux. On pourrait... C'est pas un roman par nouvelle, le Caravane, mais on pourrait presque dire
postuler,
ça.
Oui, je crois que c'est un roman par nouvelle.
Oui, OK. J'en ai parlé ce matin dans l'atelier, puis je n'étais pas tout à fait certaine de penser que Caravane, ça l'était, mais je pense que oui. Mais j'aime... J'aime pas définir le genre de ce que je suis en train d'écrire.
Cantonner.
Non, c'est ça. Donc, il y a pas comme... C'est sûr qu'il y a des histoires comme Guyana. Je savais bien que ça allait donner un roman.
Oui.
C'est une histoire qui se déplie, en fin de compte.
Exactement.
Alors que quand on écrit des nouvelles, c'est plus court, puis c'est des moments attrapés au lasso, comme je disais l'autre fois.
Exactement.
Mais je peux pas dire que je choisis le genre avant d'écrire. J'y pense pas à ça.
D'accord.
J'aime pas me cloisonner dans des genres.
C'est l'écriture qui va vous amener vers
c'est
un
ça.
Genre.
C'est ça. Puis j'aime... Ben, c'est sûr que y a des... quand j'écris un roman, je sais que c'est un roman. Parce que de toute façon...
Oui.
Il faut le savoir avant parce que c'est beaucoup de temps.
Oui.
C'est une autre implication complète. Oui. Là. C'est du temps qui se déploie devant soi. Là. Alors que la nouvelle, c'est très lié aux circonstances de la vie aussi. Hein. Comme disait Raymond Carver, quand tu travailles toute la journée puis que tu as tes enfants à la maison, ben, tu as peut-être moins de temps. Donc, la forme courte, des fois, va bien...
Oui, va convenir.
Va convenir aux circonstances de la vie.
Le livre va s'écrire par couche.
C'est ça. Lui, il disait, vaut mieux se plier aux circonstances de la vie que tout le temps lutter... contre et pas écrire, tu sais, jamais être capable d'écrire. Il y a de ça aussi. C'est difficile de faire la marge, de savoir qu'est-ce qui est un choix, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais c'est sûr qu'il y a des histoires qui commandent le long texte. Ça, c'est
d'accord.
Certain.
Merci beaucoup.
Merci.
I got caught in the storm and carried away. I got turned around.
Bonjour, ici Catherine Gosselin. J'ai le plaisir de m'entretenir maintenant avec Claude Lacharité. Claude Lacharité, bonjour.
Bonjour, Catherine.
Donc, Claude Lacharité, avec votre collègue Julien Goyette, vous avez fait paraître récemment les récits amérindiens de Philippe Aubert de Gaspé. On connaît bien, évidemment, les anciens Canadiens d'Aubert de Gaspé, qui est un roman qui est vraiment un classique de notre littérature. En revanche, les récits amérindiens que vous venez de publier sont moins bien connus. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce recueil de récits d'Aubert de Gaspé et à quel moment exactement il les a publiés?
Oui, en fait, les récits amérindiens, c'est le titre que Julien Goyette et moi-même avons choisi d'adopter pour cette édition-là. Mais en réalité, les récits en question ont été publiés en 1893 de façon posthume. Hein. Philippe Aubert de Gaspé est mort en 1871 dans un recueil qui s'intitulait en réalité « Divers », publié par le fils de l'auteur, Alfred, qui était son exécuteur littéraire.
D'accord.
En fait, comme il a hérité des papiers de son père, il a décidé d'exhumer un certain nombre de textes et, pour constituer ce recueil intitulé « Divers », qui comportait en réalité 4 textes, dont les 3 récits amérindiens que nous avons décidé de republier à part, en leur donnant un titre un peu distinct qui met bien en évidence l'intérêt et, je dirais, le point central de ces textes, à savoir le fait qu'ils mettent en scène des Amérindiens. Et c'est un ensemble de textes relativement méconnus. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce que depuis 1924, jamais l'ensemble des 3 récits n'avait été republié.
Très bien, merci. Ces récits amérindiens, donc, une question que j'aimerais vous poser. On sait que la littérature du 19e siècle est fertile en stéréotypes et en clichés sur les Amérindiens, qui souvent vont être présentés comme de valeureux guerriers, ou alors qui vont être présentés au contraire comme des ennemis cruels, sanguinaires. Qu'en est-il dans les récits amérindiens? Comment est la représentation des Amérindiens dans ces récits?
Bien, c'est une excellente question que vous posez. Effectivement, quand on passe au 19e siècle, on a souvent à l'esprit, par exemple, Fenimore Cooper, l'écrivain américain, qui a un peu, je dirais, campé les stéréotypes amérindiens. On imagine souvent les fameux Indiens à plumes qu'on va retrouver au 20e siècle dans les dessins animés. Chez Aubert de Gaspé, c'est tout à fait différent. En réalité, plutôt que nous présenter en groupe des Amérindiens, il va plutôt s'attacher à mettre en scène une figure de personnalité assez singulière. Dans le premier récit qui s'intitule « La renarde », il va raconter l'histoire d'une esclave amérindienne qui va être, adoptée par la famille Couillard de Montmagny et qui va devenir la nourrice des enfants. Donc, ça n'est pas l'ensemble des renards qu'Aubert de Gaspé nous présente dans ce récit, mais bien la figure très, très singulière de cette esclave qui a fini par devenir presque un membre à part entière de la famille Couillard. Dans le deuxième récit, c'est au contraire la figure du chef malécite Loup Jaune qui nous est représenté et qui est là aussi tout à fait singulière et même un petit peu en marge de sa communauté parce que Loup Jaune, à la différence de la plupart des Malécites, refuse obstinément de se convertir au christianisme. Et dans le troisième et dernier récit, là encore, bien que l'histoire se déroule à Lorette, c'est-à-dire Wendake aujourd'hui, le personnage qui raconte l'histoire, c'est Grand Louis, on dirait aujourd'hui, j'imagine plutôt Gros Louis que Grand Louis, et en fait, ce Gros Louis, ben, c'est un buveur impénitent qui, là encore, n'est pas du tout un représentatif nécessairement de sa communauté. Donc, c'est plutôt des êtres bien incarnés, bien campés, bien singuliers qu'Aubert de Gaspé nous donne à voir. Et à chaque fois, il s'agit de personnages qu'il a effectivement bel et bien connus et fréquentés assidûment.
Très bien. Dans l'introduction de votre édition, vous parliez de Loup Jaune tout à l'heure, donc j'aimerais vous poser une question à propos de ce personnage, parce que dans l'introduction de votre édition, je le disais, vous présentez le chef malécite, qui donne son nom au deuxième récit du recueil, comme une sorte de père spirituel d'Aubert de Gaspé. Donc, qu'entendez-vous par là? En quoi le personnage de Loup Jaune est en quelque sorte un père spirituel?
Oui, c'est une très bonne question. Ça peut paraître étonnant. Hein? On ne s'imagine pas qu'Aubert de Gaspé, alors qu'il a tous les travers d'un homme du 19e siècle, un tout petit peu paternaliste, fier évidemment de ses origines françaises et aristocratiques, ait pu se choisir comme, comme père spirituel un Amérindien, ce fameux Loup Jaune, chef malécite. Et pourtant, dans le deuxième récit des récits amérindiens, donc Aubert de Gaspé situe l'action à un moment très important dans sa propre existence. Hein? C'est le moment où il entre dans la vie adulte. Il nous raconte que jusqu'alors, Loup Jaune, qui venait pourtant camper sur la grève du manoir familial de Saint-Jean-Port-Joli à chaque année, ignorait superbement Philippe Aubert de Gaspé parce qu'il le jugeait sans doute trop jeune et pas suffisamment sage et en tout cas assurément indigne de sa conversation. Mais précisément donc à cette époque décisive où Aubert de Gaspé a 18 ou 19 ans, Loup Jaune condescend enfin à parler avec Aubert de Gaspé et il lui raconte les origines fabuleuses de sa longue lignée de chefs en racontant comment son ancêtre, qui s'appelait lui aussi Loup Jaune et qui serait né apparemment des amours du dieu de la guerre Arescoué avec une jeune malécite, est parvenu donc à prendre le pouvoir dans sa communauté. Mais le plus important, c'est qu'à la toute fin, Aubert de Gaspé lui demande justement pourquoi il a refusé obstinément de se convertir au christianisme au point de paraître un peu comme une sorte de marginal dans sa communauté. Mm-hmm. Et c'est vraiment la conclusion du récit. Et alors, Loup Jaune dit la chose suivante. « Lorsque le capot du Loup Jaune est vieux et usé, il le jette et en met un autre, mais il ne peut pas dire à sa croyance « Tu es vieille et usée, je te jette au fond de mon wigwam pour y faire coucher mon chien. Bonjour, jeune homme, et retiens bien mes paroles. » Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'est pas un hasard si Aubert de Gaspé décide de conclure ce récit précisément sur ce passage, parce que d'une certaine façon, ça a été la ligne de conduite qu'il s'est fixée comme écrivain. Toute sa vie, il est resté fidèle à sa croyance, non pas évidemment à sa croyance païenne, comme c'est le cas de Loup Jaune, mais à sa croyance pour ce qui est de la valeur extraordinaire du régime seigneurial, qui a été pourtant aboli en 1854, ou encore pour ce qui est, par exemple, du régime français de la Nouvelle-France, que Aubert de Gaspé ne va pas cesser d'idéaliser dans les anciens Canadiens comme dans les mémoires. Et donc, d'une certaine façon, Aubert de Gaspé, si on veut, je dirais, donner un fil conducteur à l'ensemble de son œuvre, c'est précisément ce refus de renoncer à sa croyance que lui a enseigné Loup Jaune au moment d'entrer dans la vie adulte.
C'est très intéressant. Bien, donc, nous allons conclure aussi sur ces paroles. Je vous remercie grandement, Claude Lacharité, pour cet entretien et pour ces récits amérindiens.
Merci, Catherine.
You walk out your front door, out into sound and sun, and people say hello to you, and you say hello to
Nous sommes de retour avec Élise Turcotte pour le troisième segment de notre émission. Élise, j'oserais vous demander si vous deviez identifier deux ou trois auteurs marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lectrice et ou d'écrivaine. Quels seraient ces noms?
Difficile. Bien, c'est assez difficile pour moi de dire deux ou trois auteurs parce que c'est souvent des livres. Mais ce que je peux dire, par exemple... dans mon souvenir, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais être comédienne. Ah, et avant, avant d'aller au cégep, et puis je voulais être comédienne parce que, je sais pas, j'avais ça dans le sang, je pense, puis j'allais au théâtre, j'aimais ça. Puis à un moment donné, à cause de Tennessee Williams, que j'aimais beaucoup, mais par Tennessee Williams, j'ai commencé à lire d'autres auteurs du sud des États-Unis, comme William Faulkner, que j'aime beaucoup. Et là, je me suis rendu compte, dans le fond, que ce que j'aimais, c'était pas tant la pièce de théâtre que l'univers qui était créé. Et tous les auteurs, ces auteurs américains-là m'ont vraiment, vraiment influencée. Faulkner surtout, mais après ça, j'ai lu Carlos Fuentes, ces auteurs de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Donc, ce genre d'auteurs là, qui créent un univers, qui ont une voix très particulière. J'ai aimé aussi beaucoup Marguerite Duras plus tard, ça, vraiment. J'aime énormément Annie Ernaux, mais il y a tellement de monde que j'aime. Il y a une auteure, c'est ça, j'ai des livres. Moi, quand j'écris, j'ai ma bibliothèque, puis il y a des livres qui sont toujours là à côté de moi.
Qui vous accompagnent dans l'écriture.
Il y a un livre, par exemple, La passion selon G.H. de Clarice Lispector, qui est une écrivaine brésilienne. Ça, je l'ouvre tous les jours, ce livre-là. Donc, il y a plusieurs livres phares dans ma vie que jamais je donnerai, par exemple.
D'accord. Merci.
En contrepartie, si on était curieux et qu'on se demandait quelles seraient les œuvres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque d'Élise Turcotte.
Ben moi, je suis une grande fan de romans policiers. Fait que je lis énormément de romans policiers. J'ai aussi dans ma petite bibliothèque, là, avec mes livres fétiches, j'ai un livre assez spécial, c'est « Les lettres de Calamité Jane à sa fille ».
D'accord.
Et j'ai tellement aimé lire ce livre-là en pensant... Au début, je pensais que c'était vrai. J'ai su beaucoup plus tard que c'était un canular. Mais ça dit qu'elle avait appris à écrire pour écrire à sa fille.
Okay.
Donc, elle a appris à lire et à écrire. Puis, ça m'a fascinée. Mais c'est pas grave. Même si je sais que c'est un canular, j'aime beaucoup ce livre-là. J'aime ce personnage-là énormément. Donc, c'est un livre spécial pour moi.
D'accord. Merci. En terminant, j'aimerais qu'on parle un peu de l'importance de la lecture dans la formation d'un écrivain, parce que, bon, vous enseignez ici dans le cadre de l'Université d'été en lettres et création littéraire. Vous formez la relève ici et ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes écrivains à propos de la lecture?
Bien, c'est capital, parce que je leur disais cette semaine, justement, est-ce qu'on penserait qu'un musicien peut faire de la musique sans comprendre c'est quoi le langage musical? Donc, je pense que la lecture est fondamentale quand on est jeune. C'est ça qui mène à l'envie probablement d'écrire.
Ouais.
Et après, c'est ça le levier qui nous redonne le désir d'écrire. Parce que souvent, quand on écrit, on a besoin d'être entouré de livres qui nous parlent, qui nous envoient ailleurs, qui nous donnent le désir d'écrire. C'est ça qui est important. Puis quand on vieillit, d'ailleurs, en écriture, quand on avance en écriture, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de lire des livres qu'on trouve extraordinaires et qui vont nous pousser à écrire.
Ouais.
C'est vraiment important. Puis ne serait-ce que pour pas répéter ce que les autres ont fait. Mais c'est vrai que les jeunes auteurs souvent vont dire « Moi, je veux pas lire, je veux pas être influencée. »
Oui, on
entend vraiment une
tellement
erreur,
ça.
Grave erreur.
Oui. Ne serait-ce que pour se positionner pour ou contre.
Bien, l'écriture, c'est un mode de connaissance.
Oui.
Et la lecture vient avec. Et pour pouvoir être capable de se corriger puis réécrire ses textes, il faut avoir appris à lire, pas appris à lire simplement un texte, mais appris à lire en profondeur.
À comprendre les procédés d'écriture
À lire en diagonale, pas en diagonale, horizontale, en verticale.
En vertical.
Donc ça, quand on a appris à lire les œuvres, on est capable peut-être de mieux se lire aussi. C'est important.
Oui, clairement. Merci beaucoup.
Merci.
Une carte postale m'attendait dans la boîte aux lettres. J'ai compris tout de suite, juste en voyant l'image, qu'elle venait de Jim. C'était la photographie d'un dragon de mer feuillu, une sorte de poisson qu'on ne pouvait voir que dans de très rares aquariums parce qu'en eau profonde, il fallait vraiment être expert pour les distinguer et qu'il était difficile de les capturer. Je reconnaissais cet animal. Il se cristallisait soudain en vision épiphanique. Mon cœur s'est mis à battre très fort. D'autant plus que la carte provenait de la Nouvelle-Orléans, une ville que nous projetions de visiter ensemble avant que Jim sorte de ma vie. Il avait donc décidé d'y aller malgré tout. Pourquoi? Je tenais la carte dans mes mains, n'osant pas encore la lire, et la question s'imposait déjà au-delà de toute explication. Pourquoi s'était-il rendu dans cette ville qui appartenait à une intimité perdue? Et pourquoi me le faire savoir? Pourquoi? Il y travaillait, sûrement. Il continuait son bestiaire, peut-être. Peut-être même qu'il le faisait pour moi, continuant à suivre la route tracée par l'être étrange, bicéphale que nous avions formé à deux. Cet être continuait à vivre, peut-être. Peut-être visiterait-il, lui, l'être survivant, notre double, ou seulement Jim, tous les endroits où nous avions rêvé d'aller. En tout cas, l'image du poisson était spectaculaire. On aurait dit une forme hybride entre l'animal et le végétal, et les couleurs étaient presque impossible à décrire, un camaïeu jaune, orange et rouge. Je suis tout de suite tombée sous le charme. J'ai retourné la carte. c'était bien l'écriture de Jim. Il avait écrit « Une beauté du monde sous-marin, comme toi ». Il était là. Les compliments commençaient. Des compliments rétrospectifs et incompréhensibles, cadeaux vivants au cœur battant et déployant ses tentacules comme si cet animal avait été créé par une sorte de Dieu juste pour moi.
Parking Nomade.